Marie pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
Les As de l'info. Pour ou contre, enlever la couronne britannique des armoiries du Québec. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 2 février 2026 dans Les As de l'info. Le Québec a son drapeau bleu et blanc avec ses fleurs de lys. Mais savais-tu que la province a aussi des armoiries? Il s'agit d'une image officielle qui représente l'histoire et les valeurs d'un pays, d'un territoire ou d'une école, par exemple. Et celles du Québec seront bientôt modifiées. La couronne, qui représente la royauté britannique, sera retirée. Pour le gouvernement du Québec, c'est un moyen de montrer que le Québec ne dépend pas du roi d'Angleterre. Mais est-ce une raison de modifier un symbole? Regardons ensemble les pour et les contre. Avant de commencer, voici ce qu'il y a d'écrit sur les armoiries du Québec telles qu'elles existent depuis 1939. On les retrouve sur les documents officiels et sur certains édifices du gouvernement, le Parlement par exemple. Chaque élément raconte une partie de l'histoire de la province. En partant du haut, on voit la couronne rouge et or avec diamant représente l'Empire britannique, qui sera enlevé le 4 février. Les fleurs de lys couleur or sur ruban bleu royal qui rappellent les origines françaises de la province. Un léopard, qui ressemble plus à un lion, lui aussi couleur or sur ruban rouge qui représente l'époque où le Québec était une colonie britannique. Trois feuilles d'érable vertes qui représentent le Canada sur un ruban or pointé. Et finalement, la devise du Québec en bandoulière blanche et bleue, la même que l'on retrouve sur les plaques d'immatriculation. Je me souviens. Les pour, un symbole dépassé. Autrefois, le Canada a été une colonie appartenant à l'Empire britannique, mais il est maintenant un pays indépendant qui vote ses propres lois. La couronne est comme un vieux souvenir qui n'a plus lieu d'être. Quand Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice du Québec, a annoncé qu'il la retirerait des armoiries, il a expliqué que la vaste majorité des Québécois n'ont aucun attachement envers la monarchie britannique et la rejettent. Il faut évoluer. Les derniers changements aux armoiries datent de 1939. Cela fait donc près de 90 ans qu'elles n'ont pas été revues. Bien des choses ont changé depuis, a expliqué Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Les armoiries doivent refléter les valeurs d'aujourd'hui. Ça montre que l'identité, c'est quelque chose qui évolue. D'ailleurs, il faudrait penser à ajouter des éléments qui représentent les peuples autochtones. Un souvenir douloureux. Non seulement la couronne est un symbole du passé, mais elle rappelle une période difficile pour le Québec. En 1763, la Nouvelle-France est devenue une colonie britannique à la suite d'une guerre qu'elle a perdue. On appelle cet événement la conquête. Le pouvoir a longtemps été entre les mains des Britanniques qui ont voulu effacer la langue et la culture des Canadiens français. Les peuples autochtones ont aussi beaucoup souffert. Pourquoi conserver un symbole qui nous rappelle ce souvenir? Les contres. On ne réécrit pas l'histoire. C'est vrai que les liens entre le Québec et la monarchie britannique ne sont pas simples, mais ça fait tout de même partie de l'histoire. Ça ne s'efface pas simplement en retirant un symbole. En plus, la CAQ veut enlever la couronne, mais laisse le léopard qui symbolise lui aussi l'Empire britannique. On dirait qu'on fait les choses à moitié. Se rassembler, pas se diviser. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump il y a un an, il y a beaucoup de tensions sur la planète. Dans un discours important, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a dit que les pays comme le Canada devaient s'unir et s'entraider. Le moment est mal choisi pour poser un geste de rejet qui pourrait être mal interprété en Grande-Bretagne, qui reste un allié du Canada. Il y a d'autres priorités. Même si le gouvernement dit que les armoiries sur les édifices ne seront pas touchées, il va quand même falloir modifier la papeterie et certains documents. C'est une perte de temps et de ressources quand il y a des besoins urgents en santé ou en éducation. Il y a des enjeux beaucoup plus importants que les armoiries. En bref, pour un symbole dépassé, il faut évoluer. Un souvenir douloureux. Contre, on ne réécrit pas l'histoire. Se rassembler, pas se diviser. Il y a d'autres priorités. Toi, es-tu pour ou contre modifier les armoiries du Québec? Le premier ministre du Canada se fait corriger. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru le 29 janvier 2026 dans les As de l'Info. Jeudi dernier, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a prononcé un discours à propos de l'histoire du pays, mais, oups, des politiciens québécois ont relevé plusieurs erreurs dans son texte et étaient très offusqués. Je te présente deux extraits qui ont dérangé. 1. Mark Carney a dit « Les plaines d'Abraham symbolisent le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division. » Les plaines d'Abraham, c'est un lieu très important dans l'histoire du Québec. En 1759, une grande bataille y a eu lieu entre les Français et les Britanniques. Les Français ont perdu cet affrontement. C'est à ce moment que la Nouvelle-France est devenue un territoire britannique. Pourquoi cette phrase a dérangé? Après cette bataille, les Britanniques ont pris le contrôle du territoire et ont essayé de faire disparaître la langue et la culture francophone. C'est un processus qu'on appelle l'assimilation. Mais M. Carney a dit l'inverse, que le Canada n'a pas choisi l'assimilation. C'est en contradiction avec un fait historique connu, bien documenté, en plus d'être un sujet douloureux pour les francophones. Le mot « partenariat » a aussi mal passé. Parce que dans les faits, c'est une bataille qui a été perdue par un groupe. Ensuite, les francophones ont bel et bien subi la domination des vainqueurs. Il leur a fallu beaucoup d'efforts pour survivre et protéger leur identité. C'est loin d'être un exemple de collaboration, comme l'a dit le premier ministre. 2. La langue française a été protégée avec le temps. Depuis 1969, l'anglais et le français sont les deux langues officielles du Canada. Pourquoi cette phrase a dérangé? Plusieurs politiciens ont trouvé que cette phrase donnait l'impression que la langue française s'est protégée toute seule. Pour eux, c'est oublier que des francophones ont dû se battre pendant des années pour défendre leur langue et obtenir les lois pour la protéger. C'est même encore difficile pour les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Des réactions. Plusieurs politiciens québécois, comme Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, ont réagi très vivement au discours. Ils ont reproché à Mark Carney d'avoir présenté une version beaucoup plus positive du passé du Canada, loin de la réalité. Selon eux, cela revenait à réécrire l'histoire. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a affirmé que c'est un grave manque de respect pour l'histoire. Lui et d'autres politiciens québécois ont demandé des excuses. Mark Carney, lui, a répondu aux critiques en disant qu'il estime avoir reconnu les luttes des francophones dans son discours. Charles Milliard, un candidat à la chefferie du Parti libéral, a déclaré que le discours du premier ministre manquait de nuances. « On ne peut passer sous silence les pans plus sombres de notre histoire », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Ça m'a inspiré ma question. Et toi, penses-tu qu'il est important de parler des moments difficiles du passé? Pourquoi?
Tout ça a commencé sur les plaines d'Abraham. La chicane a poigné, comment j'ai te volé. Mais depuis ces temps-là, t'as pas beaucoup changé. Je te trouve bien magané, puis encore bien poigné.
Que mettrais-tu dans la Constitution? Un texte de Marie Bernier, paru le 3 février 2026 dans les As de l'Info. Constitution. On entend souvent ce mot dans les nouvelles ces temps-ci. Pourquoi? Parce que la CAQ veut donner au Québec une constitution. Et ça suscite énormément de critiques. Quel est le problème? Et c'est quoi, au juste, une constitution? T'inquiète, je t'explique ça étape par étape. Ensuite, tu pourrais dire ce que toi, tu écrirais dans ce document important. D'abord, c'est quoi une constitution? C'est une loi qui se situe au-dessus de toutes les autres. On dit souvent que c'est la loi des lois ou la loi suprême. Quand un pays adopte une constitution, toutes ses autres lois doivent la respecter. Par exemple, imaginons une constitution qui dirait « Les habitants du pays doivent porter un chandail bleu tous les jours. » Il ne serait pas possible de faire adopter une loi exigeant que les habitants portent un chandail rose à la Saint-Valentin. C'est parce que ça entrerait en contradiction avec la Constitution. Elle a la priorité. Et le Québec n'en a pas? Non. Le gouvernement de François Legault a donc décidé que le Québec aurait sa propre constitution pour affirmer les valeurs des Québécois et protéger leurs droits. C'est le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui a préparé le long document. Ça fait 40 pages. Pour le ministre, cette constitution doit être le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Par exemple, le texte désigne le français comme seule langue officielle du Québec et reconnaît l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est encore qu'un projet, c'est-à-dire que ce n'est pas encore officiellement la Constitution du Québec. Les élus québécois pourront proposer des modifications et voter pour ou contre. C'est quoi le problème? Depuis des semaines, toutes sortes de groupes critiquent ce projet de constitution. Les raisons sont nombreuses. En voilà quelques-unes. Le document a été rédigé sans consulter la population. Il consacre peu d'espace aux peuples autochtones. Il pourrait fragiliser le droit à l'avortement selon plusieurs groupes. Il ne prévoit pas de droit à un environnement sain. Il rendrait plus difficile le fait de contester des lois. Des groupes de défense des droits sont tellement inquiets qu'ils ont demandé à l'ONU d'intervenir pour que le projet de constitution soit retiré. Et maintenant, ces groupes peuvent exprimer leurs inquiétudes au gouvernement lors d'une grande discussion qu'on appelle une commission parlementaire. C'est un moment pour étudier un projet de loi où l'on peut aussi entendre l'avis des experts. Ces discussions ont commencé avant Noël et reprennent ce mois-ci. Pour l'instant, le ministre Simon-Jolin Barrette ne semble pas vouloir reculer, même si son initiative est attaquée de toutes parts. Il a essayé de rassurer ceux qui sont inquiets. Il faudra voir si les points de vue présentés lors de la commission le fera changer d'avis. À ton avis, quelle loi devrait être inscrite dans la Constitution? L'obligation de flatter tous les chiens que l'on croise? De trier ses déchets dans les bons bacs? Quelle valeur devrait absolument s'y trouver? Il est une fois l'auteur qui transformait les enfants en personnages. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 30 janvier 2026 dans les As de l'Info. Frédéric Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d'un conte. Parfois, la réalité surpasse l'imaginaire. Il est une fois, à notre époque, un auteur qui s'inspirait des enfants pour améliorer ses histoires. Tout a commencé il y a bien longtemps, quand Robert était éducateur dans une garderie. Pour calmer les enfants à l'heure de la sieste, il s'est mis à leur raconter des histoires sorties tout droit de son imagination. Quand ces histoires étaient ennuyantes, les enfants roulaient dans leur lit, incapables de s'endormir. Mais quand elles les intéressaient, ils demeuraient couchés, les oreilles grandes ouvertes et les paupières de plus en plus lourdes, jusqu'à trouver le sommeil. Chaque jour, les enfants demandaient à Robert de leur raconter une nouvelle histoire. Si bien qu'au bout de quelques années, Robert avait accumulé de nombreuses histoires dans sa mémoire. Un jour, le directeur d'une école où Robert travaillait désormais lui a donné 2 mois de congé pour qu'il sorte ses histoires de sa tête et les couche sur du papier. Et c'est ainsi que les histoires de Robert ont commencé à se transformer en livres et que ces livres ont rejoint des millions d'enfants à travers le monde. Ce succès a permis à Robert de quitter son travail pour se consacrer entièrement à sa carrière d'auteur. Mais il n'était pas question pour lui de s'enfermer dans un bureau pour écrire, car l'ingrédient magique de ses histoires, c'était son contact avec les enfants. Robert a donc continué d'aller dans les écoles et les garderies pour y raconter ses histoires. Il faisait parfois des milliers de kilomètres pour visiter la classe d'élèves qui lui avait écrit des lettres. En leur racontant ses nouvelles histoires, il observait attentivement leurs réactions, puis écoutait leurs commentaires. Cela lui permettait de les améliorer en ajoutant une remarque ou même un personnage à qui il donnait le nom de l'enfant qu'il avait inspiré. Il arrivait même que Robert raconte certaines histoires durant plusieurs années dans les écoles avant de sentir qu'elles étaient mûres pour devenir des livres. Lors de ses visites aux quatre coins de son pays, Robert demandait souvent à la famille d'un ou d'une élève de l'héberger. Cela lui faisait économiser le prix d'une chambre d'hôtel, mais la vraie raison était autre. Il pouvait ainsi échanger avec l'enfant et toute sa famille et trouver l'inspiration pour de nouvelles histoires. Puis, Robert a vieilli. Et il est devenu malade. Il s'est mis à perdre l'équilibre. Il a dû cesser de visiter des écoles. Depuis, les mots lui échappent. Il ne trouve plus les bons. Et son imagination a cessé de lui fournir de nouvelles histoires. Robert comprend aujourd'hui que la fin de sa vie approche. Il se sent prêt à mourir quand il n'aura plus la force de continuer, mais il souhaite pouvoir encore raconter des histoires aux enfants, même lorsqu'il ne sera plus de ce monde. Il a donc élaboré un plan. Dans sa mémoire se trouve encore une cinquantaine d'histoires qu'il n'a jamais eu le temps de transformer en livres. Avec l'aide de ses proches, il est en train de les écrire. Voici ce qu'il a prévu. Chaque année durant 50 ans, un nouveau livre portant son nom pourra être publié. Et dans chacun de ces livres, on trouvera les traces des centaines d'enfants qui ont permis à Robert de rendre ses histoires toujours meilleures au fil des ans. Et toi, comment imagines-tu ta vie dans 50 ans, quand paraîtra le dernier livre de Robert Munsch? Cette histoire est bien vraie. Robert Munsch est un célèbre auteur canadien qui a écrit 85 livres pour enfants, traduits en une cinquantaine de langues et vendus à plus de 87 millions d'exemplaires. Parmi ses plus connus, on trouve « La princesse dans un sac »,« Le dodo de Mortimer » et « Je t'aimerai toujours », un livre qui a fait pleurer toute l'équipe des As. Aujourd'hui, Robert est atteint de la maladie de Parkinson et souffre de démence. Il se prépare tranquillement à quitter ce monde. Il a demandé l'aide médicale à mourir, qu'il obtiendra quand il sentira que le temps est venu. En attendant, il se dépêche d'écrire les livres qui lui survivront pour continuer d'amuser les enfants des 50 prochaines années.
Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange.
Vrai ou faux? Manger moins de bœuf, c'est bon pour la planète. Un texte de Ophélie Delaunay, paru le 5 février 2026 dans les As de l'Info. Au Québec, plusieurs hôpitaux et résidences pour personnes âgées ont modifié leur menu pour offrir plus de repas sans viande. Il y a même une grande école à Montréal, la Polytechnique, qui a décidé de complètement retirer le bœuf de ses menus. Pourquoi? Pour diminuer la production de gaz à effet de serre, GES, qui contribue au réchauffement climatique. Quoi? Ce qu'on mange peut polluer? Mets-toi à table, je t'explique. Oui, la nourriture produit des gaz. Comme beaucoup de nos activités, manger produit des gaz à effet de serre. Ce ne sont pas tant les aliments eux-mêmes qui polluent, mais toutes les étapes avant et après les avoir mangées. Les produire à la ferme. Ça nécessite de l'énergie, souvent du gaz ou du pétrole, pour faire rouler les tracteurs et chauffer les bâtiments, parfois de l'engrais, beaucoup de nourriture pour animaux. Les transformer et les emballer. La plupart des aliments sont vendus dans des sacs de plastique, des bouteilles, des conserves. Tout ça prend de l'énergie et des matières premières. Les transporter jusqu'à l'épicerie. Ça prend de l'essence pour les camions et les avions. Les conserver et les cuisiner. Garder la nourriture au frais et la cuire demande aussi de l'énergie. Les éliminer. Les camions poubelles qui transportent les restes jusqu'au dépotoir consomment de l'essence et les déchets de table, os, pelures, qui pourrissent, dégagent des GES. Le plus polluant? Le bœuf. Mais certains aliments polluent beaucoup plus que d'autres. C'est la viande de bœuf qui génère le plus de GES. Produire 100 grammes de viande de bœuf génère en moyenne 100 fois plus de GES que de produire 100 grammes de noix ou de légumineuses. Pourquoi? Parce que pour élever des bœufs, des vaches et des veaux, ça prend de grands espaces et pour ça, on coupe souvent des arbres. Et qui dit moins d'arbres, dit moins de CO2 absorbé par ces végétaux. Ça nécessite de produire des tonnes de foin, de maïs et d'orge pour les nourrir, donc beaucoup d'énergie et souvent de l'engrais. En plus de tout ça, ces animaux relâchent une grande quantité de GES dans l'air quand ils rotent. Moins de steak, c'est mieux pour la planète. Si ta famille et toi souhaitez produire moins de GES, une option pas trop compliquée est donc de manger moins de viande et surtout moins de bœuf. D'ailleurs, le gouvernement du Canada recommande de manger plus d'aliments à base de plantes, fruits, légumes, tofu, céréales, que de viande. C'est meilleur pour la planète et meilleur pour la santé. Imagine, un repas à base de viande rouge émet presque autant de GES qu'une semaine de repas sans viande. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de façons de remplacer le bœuf dans nos recettes préférées. Par exemple, utiliser des lentilles dans la sauce à spaghetti, des pois chiches dans le chili, ou encore préparer des boulettes avec des haricots noirs ou du soya pour les hamburgers. C'est aussi bon. Et toi? Est-ce que tu manges souvent du bœuf? Est-ce que tu trouverais ça difficile d'en manger moins ou même pas du tout?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine
pour une autre émission de On lit pour toi!